Panoramique, l'émission qui regarde la musique. Le dimanche à 21h30 sur Radio Campus Paris 93.9. Bonsoir, damoiselles et damoiseaux, bienvenue dans l'émission Panoramique sur Radio Campus Paris. Ce soir, ce sera un épisode un peu timide en termes de temps de parole et plutôt généreux en termes de temps de musique, parce que j'ai une bonne crève et je ne veux pas vous imposer ce qui ressemble beaucoup à la voix de Gérard Darmon sur une durée un peu trop longue. On va simplement faire un petit topo rapide pour commencer l'émission. Elle va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est en même temps un peu un plaisir coupable, j'avoue. C'est les bandes originales médiévales dans les films historiques, les séries fantasy, bref, le Moyen-Âge à l'écran et le rôle des bandes-son, de l'habillage sonore. Alors c'est parti, direction les couloirs du temps. Je vous explique un petit peu le machin juste après l'écoute d'un premier morceau pour se mettre en jambes. Il s'agit d'une version d'une chanson qui s'appelle « Le roi a fait battre tambour ». C'est une chanson qui a été jouée par la musicienne française Agnès Guéraud, alias La Féline. A tout de suite sur Radio Campus Paris, vous écoutez l'émission Panoramique.
Et la première qui l'a vu.
Alors, est-ce que vous êtes tombé dans le piège? Ce morceau, même s'il est repris avec une guitare électrique dans les années 2000 et quelques, est-ce qu'il fait pas un peu médiéval par hasard? Si, et bien il n'est pas du tout écrit à l'époque médiévale. C'est un morceau, le roi a fait battre tambour, qui date de la fin du XVIe siècle, ou plutôt, on n'a pas l'année précise, mais pourtant on a quand même l'impression en l'écoutant que ça pourrait être une BO remaniée d'un film qui parle du Moyen-Âge, ou en tout cas d'un répertoire qui daterait du Moyen-Âge. Alors pourquoi finalement est-ce qu'en termes visuels, on peut arriver à peu près à reconnaître, à déceler ce qui date de la Renaissance, ou de 1912, ou du XIIe siècle, ou d'avant Jésus-Christ, et pourquoi est-ce qu'en termes de musique, l'imaginaire semble un petit peu plus flou, parfois plus complaisant, on a plus de mal à reconnaître les limites temporelles de certaines partitions. Alors déjà une petite précision sémantique pour pouvoir continuer sur des bases saines. Quand je dis médiéval, c'est qu'on parle du Moyen-Âge au sens historique, au sens vraiment de la frise chronologique, puisque moyenâgeux c'est plutôt un épithète péjoratif, voilà, je le dis parce que ça a pu arriver peut-être à certaines ou certains de l'employer sans savoir que ça ne voulait pas dire médiéval. Je précise aussi que, à titre d'information, un médiéviste, c'est bien un historien spécialiste du Moyen-Âge. Et enfin, c'est ce qui va nous intéresser dans cet épisode et aussi la semaine prochaine, puisque ce sera en deux parties, le médiévalisme, donc par extension l'adjectif médiévaliste, c'est ce qui désigne non pas la frise chronologique, donc la vraie histoire avec un grand H, mais plutôt une représentation postérieure du Moyen-Âge, donc une représentation qui date de après la fin du Moyen-Âge, et qui serait une espèce de version un peu idéalisée, un peu romantisée, romantique en tout cas du Moyen-Âge et de ses marqueurs esthétiques. C'est un terme, en tout cas une tendance qui apparaît surtout à partir du 19e siècle, donc le siècle romantique évidemment, et puis ça continue encore avec un regain dans les années 70, le mouvement hippie, même aussi des groupes de chez nous, comme par exemple Malicorne. C'est vraiment une tendance, un retour au Moyen-Âge, mais une sorte de Moyen-Âge un peu peace and love, un peu fleuri. Voilà, ça continue avec le succès aussi bien plus tard de séries ou de films qu'on connaît tous, hein, je vais pas vous refaire le topo des visiteurs ou de Game of Thrones, en passant par des multiples réécritures de la légende arthurienne, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a vraiment une mine d'or inépuisable dans ce qu'on appelle au sens large l'univers médiéval, mais qui peut avoir plein de définitions possibles. Une précision aussi que je voulais faire avant de commencer plus dans le vif du sujet, c'est que le Moyen-Âge, ça a beau avoir duré pratiquement 1000 ans, du 5e au 15e siècle, désolé, je fais des rappels d'histoire de l'école primaire, mais c'est pour qu'on parle bien de la même chose. Donc le Moyen-Âge, c'est bien ce qui commence à la fin de l'Antiquité et ce qui va s'arrêter au début de la Renaissance du coup. Et dans ces 1000 ans pratiquement, il y a évidemment beaucoup de musique qui a été interprétée, qui a été utilisée pour des répertoires religieux ou profanes, donc de plus de divertissement, donc de poésie. Mais dans ces musiques interprétées, tout n'était pas forcément consigné, en tout cas pas toujours bien conservé. Donc certes, on pourrait croire qu'il y a un répertoire qui est très vaste, en réalité on n'a pas forcément remis la main sur tout. Voilà, ce qui aurait pu être utilisé comme potentiel bande originale, en fait c'est pas si fourni que ça. Comme il y a aussi beaucoup de musique qui a été écrite après le Moyen-Âge, en fait la frise chronologique dans tout ce qui s'est transmis par voie orale, donc des chants. Il y a des choses qui ont continué un petit peu après la fin du vrai Moyen-Âge historique, mais qu'on considère un peu dans une espèce de zone grise, c'est-à-dire que musicalement, ce qui va vraiment dater du début de la Renaissance, on considère que ça appartient encore un petit peu au Moyen-Âge, puisque c'est une espèce de rond dans l'eau qui va se perpétuer un petit peu quelques dizaines d'années après le début de la Renaissance. Voilà, donc parmi ces musiques dont je parlais, on a surtout deux catégories, comme on l'a dit, c'est les chants religieux, donc ces fameux chants très monocordes grégoriens, vous voyez très bien de quoi je parle, le type chaussé aux moines, et les chants profanes, à partir du XIe siècle notamment, des chants qui sont plutôt des poèmes courtois, des chants de troubadours qui passaient à la taverne de Duchesneau. Et donc au niveau de la pratique, au Moyen-Âge, il y avait déjà un système de notation des intervalles, des notes, ABCD, etc. Il y avait aussi des partitions, puisque pour ceux qui savaient les écrire, elles existaient. Et il y avait différentes techniques vocales, on l'a dit, soit en solo, soit en polyphonie. Et ainsi qu'il y avait évidemment plusieurs instruments qui existaient déjà et qui existent encore, comme par exemple des flûtes, notamment la flûte de Pan, des instruments à vent comme le hautbois, la cornemuse, également des embouchures comme la trompette ou le cor, toujours pratique pour aller chasser avec ses chiens. Il y avait aussi des cordes pincées comme la harpe ou le luth pour les plus connus qu'on trouve encore beaucoup aujourd'hui, ou la guiterne, un mot qui fait toujours bonne impression au Scrabble, ou pour baptiser un animal domestique qui sera plus tard surnommé Guigui. Il y avait aussi des cordes frottées comme par exemple la vielle à roue et bien sûr des percussions, puisque que serait le bardcore sans les tambours et également les clochettes. Donc concrètement, si pour un film médiéval on a besoin de réalisme historique, il y a vraiment un très large choix déjà de morceaux existants et puis aussi d'ingrédients, de codes musicaux qui sont très, très facilement retrouvables, puisque c'est des instruments qui existent encore aujourd'hui et qu'on peut utiliser pour écrire sa propre BO médiévale, à défaut d'avoir évidemment des enregistrements de l'époque. Alors à ce sujet, cela étant dit, c'est maintenant que ça se corse. Est-ce qu'on veut vraiment que tous les films médiévaux ou médiévalistes, médiévalisants on va dire, soient des reconstitutions historiques parfaites et fidèles, ou est-ce qu'on a envie de rêver d'un ailleurs, être dans une espèce de déni un peu nostalgique à l'égard du Moyen-Âge et se laisser embarquer dans des évocations un peu plus fantastiques, un peu plus imaginaires? Donc c'est pour ça qu'il y a deux épisodes, c'est qu'aujourd'hui on va plutôt écouter des choses qui font partie de la première catégorie. C'est le cas pour cet extrait qui va suivre du Dies Irae, donc une musique religieuse qu'on trouve dans la BO du film de Bergman, Le Septième Sceau. Dies Irae, jour de colère en latin. C'est bien sûr un clin d'œil avec des gros sabots pour évoquer ou annoncer la mort. Pour ceux qui ont vu le film, je ne spoile pas pour les autres. On écoute tout de suite, vous allez voir, l'ambiance est fameuse. Et on se retrouve juste après dans Panoramique sur Radio Campus Paris. A tout de suite. La bonne ambiance, je crois qu'on l'a eu. Voilà, on écoutait un extrait du film Le Septième Sceau de Bergman. Alors, pour continuer un petit peu à s'interroger sur les films ou les séries qui ont choisi au même titre que, par exemple, pour les décors ou les costumes ou les coiffures, des acteurs-actrices, de miser sur la cohérence artiste, la cohérence historique, pardon, parfaite d'une BO, d'un habillage sonore qui aurait vraiment pu dater du Moyen-Âge. On peut dire que ça relève presque d'une espèce de truc un peu archéologique, au sens où cette fidélité quasi parfaite, elle va nécessiter beaucoup de recherches, elle va mettre aussi beaucoup de barrières, notamment artistiques, et finalement, pour ces raisons, et peut-être pour d'autres que j'ai pas entre les mains, en fait, ce parti pris de l'archéologie musicale, et c'est pas le plus répandu dans l'univers des films et des séries médiévales ou médiévalistes. On trouve plutôt chez des auteurs de films comme Romer ou Bergman, c'est pas tellement quelque chose qui est un marqueur dans les films populaires. Ma théorie, c'est que finalement, cette pertinence historique un peu parfaite de nerd, si elle est bien respectée, respectée, elle peut produire un résultat qui soit finalement assez austère en fait. C'est pas forcément le Moyen-Âge un peu pumped up et un peu fantastique, elfique qu'on a envie de voir à l'écran voilà, dans la culture populaire. Sans compter que ça pose aussi d'autres questions, c'est vrai, est-ce que la priorité d'un film, que ce soit une fiction ou un docu, c'est de restituer parfaitement le réel, ou est-ce qu'au contraire on va plutôt miser sur le fait que le film va susciter des émotions, va embarquer le spectateur, est-ce qu'on va utiliser la musique du coup comme un ingrédient qui soit pas forcément 100% réaliste mais qui permette d'accompagner un petit peu l'histoire d'une manière un peu différente. On va citer un autre exemple anachronique, c'est les adaptations de la légende arthurienne, puisque que ce soit Camelot ou les Monty Python, pour ne citer que les très très connus, elles ont ça de particulier, c'est que c'est une période, donc la légende du roi Arthur, qui est censée se situer au début du Moyen-Âge, mais dont le récit commence à prendre forme plutôt à la fin du Moyen-Âge. La conséquence, c'est que en fait, un peu tout est permis, voilà, dans cet univers arthurien, c'est l'efficacité du récit qui prime, donc le côté enchanteur, fantastique. On le voit avec cette BO que je trouve extraordinaire, qui est l'ouverture du film Sacré Graal des Monty Python. C'est une musique donc, qui date de 75, qui a été écrite par Neil Hines, qui était le 7ème Python. Il réalisait beaucoup de musique et de parodies pour la troupe britannique. On écoute tout de suite, vous êtes dans Panoramix sur Radio Campus Paris. Voilà, on se rend bien compte évidemment que cette musique très orchestrale, elle a pas grand chose de vraiment médiéval, si ce n'est que par l'utilisation de certains instruments, elle peut éventuellement être une évocation efficace du Moyen-Âge, telle qu'on se l'imagine à l'époque moderne en tout cas. Dans la même lignée que ce qu'on vient d'écouter, je voulais terminer cette émission par un dernier extrait qui est mon petit préféré. Voilà, ceux qui me connaissent évidemment savent pourquoi. C'est une chanson qui a été largement popularisée, alors qui date, comme je vous disais au début d'émission, qui date historiquement de la Renaissance, mais qui appartient un peu à cette espèce de zone gris très foncé qui était en fait la fin du Moyen-Âge musicalement, c'est-à-dire on continuait quand même à se transmettre des poèmes courtois et des choses troubadour-friendly de sous le manteau. Donc c'est une chanson qui date de cette période-là, entre Moyen-Âge et Renaissance, qui s'appelle « Belle qui tient ma vie ». C'était une pavane à l'origine, donc une chanson qui était faite pour la danse, pour les bals, mais qui a été beaucoup reprise par la suite par différents orchestres, différentes chorales. Il y a la Scola Cantorum de Québec qui en a fait une magnifique version, vous pouvez trouver très facilement sur les plateformes. Il y a plein de versions avec uniquement des cordes, des versions d'orchestre de chambre, des versions dans plusieurs langues aussi différentes. Mais pour moi, la version d'origine, c'est à très peu de choses près celle que je voudrais vous proposer maintenant. Et alors, ce que je voulais dire sur cette version, sur cette chanson, c'est qu'elle a été popularisée par la série Camelot, donc qui est censée proposer une relecture de la légende arthurienne, la série d'Alexandre Astier qui passait dans les années 2000 et qui a été adaptée récemment en film. Et à plusieurs reprises, dans certains épisodes, on retrouve des personnages qui vont chanter cette chanson. Il faut savoir que historiquement, c'est pas vraiment possible parce que la chanson est quand même sortie sur la frise chronologique un tout petit peu à droite de la légende arthurienne, c'est-à-dire plusieurs siècles après. Mais en même temps, bah, comme on raconte quelque chose d'imaginaire, en tout cas qui est plus supposé que avéré, c'est-à-dire la légende du roi Arthur, on peut aussi dire que de toute manière, à partir du moment où il y a certains types de motifs mélodiques, etc., en fait, il y a plein de choses qui peuvent sonner Moyen-Âge, quoi. Donc cette chanson, elle fait partie de ça. Bah, à titre d'exemple, c'est un peu comme si dans un film qui est censé raconter l'histoire de Jésus, on avait un style de cuir qui était utilisé pour des sandales de quelqu'un, et en fait, quelqu'un disait « Oui, mais là, il n'y avait pas encore tel animal à tel endroit à ce moment-là, donc c'est impossible qu'il y ait des sandales en cuir de tel animal et pas en cuir de machin. » Voilà, c'est évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'en ouvrant un livre d'histoire, on se rend compte que les choses ne sont pas exactement à leur place. En même temps, moi je fais partie, je m'en suis jamais cachée, de l'équipe Moyen-Âge fantasmé, médiévalisme, power, le Moyen-Âge c'est dans la tête. Et c'est pour ça que du coup je trouve que cette chanson, le fait qu'elle ait été popularisée par Kaamelott et que ce soit une manière en fait très populaire de conserver dans le répertoire actuel un morceau magnifique qui mérite de survivre au siècle des siècles, ben, je trouve que ça a du sens. Je voulais vous faire écouter cette version qui nous est jouée par l'Instrumentum Vocale, c'est un groupe italien, et je la trouve très très belle. On se retrouve juste après pour se dire au revoir. C'est tellement beau ce qu'on vient d'écouter, on a de la chance de pouvoir écouter ça sur Radio Campus Paris. Vous êtes dans l'émission Panoramique qui touche à sa fin. On se quitte pour ce soir, mais on se retrouve la semaine prochaine avec la suite de cette petite aventure en deux parties dans les couloirs du temps au pays du Moyen-Âge, réel ou supposé, en tout cas réel ou imaginaire. J'espère que ça vous aura plu de vous poser ces quelques questions avec moi en mode psychologie, non pas de comptoir mais de taverne. Et je vous invite, si c'est pas déjà fait, si vous ne connaissez pas, à explorer un monde parallèle qui est assez incroyable. C'est le monde du Bardcore, B-A-R-D-C-O-R-E, un courant musical évidemment qui date plutôt d'aujourd'hui mais qui reprend beaucoup de morceaux connus de la pop culture en version entre guillemets médiévale. Donc maintenant, quand on vous parlera du Bardcore, vous pourrez dire « Ouais, mais c'est pas médiéval, c'est médiévaliste, parce qu'en fait, il y a une flûte qui n'est pas une flûte qui aurait existé au Moyen-Âge. » Donc maintenant, vous allez pouvoir être des nerds, vous aussi. Et puis la semaine prochaine, on se retrouvera pour la partie plus médiévaliste, justement, de cette histoire de BO, soi-disant médiévale, avec des choses plus actuelles. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse avec Requiem pour un Twister à 22h sur Radio Campus Paris 93.9. Bonne soirée. Panoramique, l'émission qui regarde la musique. Le dimanche à 21h30 sur Radio Campus Paris 93.9.